Merci beaucoup à toute l'équipe. J'espère que je ne vais pas casser l'ambiance. C'est vrai qu'on a ce matin glorifié notre Dieu pour ses interventions. Et des fois, c'est extraordinaire, comme c'est vrai, comme dans la vie d'Élodie, comme dans la vie de plusieurs déjà qu'on a vécu ensemble des interventions du Seigneur dans notre assemblée. Il y a aussi des moments, des fois, où c'est des choses beaucoup plus simples. Pascaline, Jean-Daniel et les enfants sont arrivés hier. J'ai tellement de plaisir quand ils arrivent, j'avais tellement envie qu'ils arrivent dans de bonnes conditions, que depuis hier matin, pour aller les chercher, ils arrivaient à 5, hein, du Burkina pour un mois et demi. Ils m'avaient prévenu avec des bagages. Et hier matin, tout ce que j'ai mis en œuvre pour avoir ce qu'il fallait pour transporter les bagages, il n'y avait pas eu moyen, ça ne fonctionnait pas. Avec déjà au moins 20 minutes ou 25 minutes de retard sur mon horaire, j'ai dû décider de me mettre en route quand même. J'ai dit, on verra bien. Et c'est vrai que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu peux faire des miracles, fais que ça rentre dans le Picasso que Pierre m'a prêté. Eh bien, vous le croirez ou non, c'est rentré. Alors, évidemment, Ilian, il n'avait pas beaucoup de place entre les valises, mais c'est rentré dans la voiture. Donc voilà. Dans les petites choses comme dans les grandes, notre Dieu est là et il est puissant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole que tu nous as donnée. Parce que tu es la parole, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons ce matin, maintenant, ouvrir nos cœurs pour que tu nous parles. C'est toi qui veux nous parler, Seigneur, chacun en fonction de ce que tu sais que nous avons dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est la vérité. Par ton nom, Seigneur. Amen. J'ai ajouté au dernier moment une petite intro qui n'est pas en rapport avec le thème, mais qui m'a touché cette semaine. C'est dans un commentaire, c'est vrai que pas tout le monde lit ça tous les jours, commentaire de Jean Calvin sur la Genèse. Saint Augustin a bien mieux dit que l'orgueil a été le commencement de tous les maux et que par lui le genre humain a été perdu et ruiné. Mais prenons garde que les hommes se sont révoltés contre Dieu quand ils ont délaissé sa parole pour prêter l'oreille aux mensonges de Satan. Car nous recueillons de ceci que Dieu veut être adoré et servi en sa parole et qu'en conséquence, quand on la rejette, on ne lui porte plus de révérence. Dieu ne se manifeste aux hommes que par la parole. Aussi sa majesté ne peut autrement subsister, ni son service demeurer, sauf parmi nous, que quand nous obéissons à sa parole. L'homme se retire de dessous l'empire de son Créateur, ou plutôt le rejette et le renonce. Satan accuse Dieu de mensonge. Finalement, ayant méprisé le commandement de Dieu, non seulement ils s'abandonnent à leurs appétits désordonnés, mais aussi se rendent esclaves du diable. L'infidélité a ouvert la porte à l'ambition, et l'ambition a été la mère de la rébellion, de telle sorte que les hommes, en rejetant la crainte de Dieu, ont aussi secoué son joug. Car ils n'eussent jamais osé s'opposer à Dieu si, premièrement, ils n'eussent été incrédules à sa parole. Tant qu'ils ont ajouté foi à la parole de Dieu, ils se sont laissés gouverner par lui. Mais après qu'ils ont donné lieu au blasphème de Satan, ils ont été comme ensorcelés et ont commencé à perdre jugement et raison. Qui plus est, Satan les ayant comme esclaves a tenu leur sens enserré. Par là, nous savons que les péchés ne sont pas estimés devant Dieu par l'apparence du dehors, mais par l'affection qui est au-dedans. Ce n'est pas notre thème ce matin, mais cette intro est également le final et le contenu principal de tout ce que je voudrais vous dire, de tout ce que nous dirons ici, d'autres aussi. C'est l'essence même de notre raison d'être. Dieu lui-même, la parole faite chair, et tout ce que nous retiendrons doit toujours partir de là et y revenir. Nous lisons dans Genèse 45 au verset 9. Genèse 45, verset 9. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer : voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Chapitre 47, verset 1. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan, et leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, ils sont dans la région de Goshen. » Verset 5, le Pharaon dit à Joseph « Ton père et tes frères sont venus vers toi, l'Égypte est devant toi, installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de Goshen. » Je vous propose ce matin un survol, sans le détailler, du pont entre la Genèse et le Nouveau Testament. Je vais y faire référence sans le raconter forcément. Et vous serez donc obligés d'y plonger vos regards chez vous si vous ne savez pas toujours à quelle situation je me réfère. Israël en Égypte. La famille de Jacob va devenir le peuple d'Israël. Le plan de Dieu, c'est un lieu propice pour se développer. Pourtant, Dieu a déjà prévu qu'ils deviendraient esclaves et les libéreraient 400 ans après. Ils ne sont encore que les descendants des patriarches, pas un peuple, des tribus. D'abord des bonnes conditions, comme je viens de le dire, puis difficiles, mais Dieu est à l'œuvre. L'intervention des sages-femmes, lorsque le pharaon demande de faire tuer les enfants, les garçons mâles, les premiers-nés. Puis Moïse, son éducation à la cour d'Égypte. Mais est-ce que Dieu envoie le prince d'Égypte pour délivrer son peuple ? Non. Le prince d'Égypte s'est cassé les dents sur ses capacités propres. Il envoie un berger dans sa plus simple existence, un berger désabusé qui ne croit pas en lui. Absence d'aptitude, de message, d'autorité, d'éloquence, de motivation, de réussite. Oui, on parle bien du Moïse qui parlait directement avec Dieu comme personne ne l'a jamais fait. Mais au moment où Dieu l'envoie, un quasi bon à rien, sans la puissance que Dieu va mettre en lui. À Goshen, Moïse vient dire aux Israélites que Dieu, je suis celui qui est, est venu les libérer de l'esclavage de l'Égypte pour en faire un peuple qui lui appartient, son peuple, et les emmener dans la terre promise. Est-ce qu'à Goshen, à l'arrivée de Moïse, tout se simplifie ? Non. Tout se complique. Est-ce que dans ce lieu, à part de l'Égypte, tout en étant l'Égypte, les choses sont totalement différentes. Les gens deviennent parfaits. Plus aucune difficulté, aucune souffrance. L'entente parfaite. Non, elle empire. La grogne est toujours là. Et tout le reste avec. Mais avec l'arrivée de Moïse, Dieu leur révèle qu'il va en faire son peuple. Et commence à les préparer. Mais dans des circonstances qui empirent. L'Église est la réalité du symbole d'Israël à Goshen. Point de référence en marge de l'Égypte et d'accomplissement de la délivrance du peuple esclave, asservi, dont il choisit de devenir le Dieu, et point de départ du voyage vers la terre promise. Nous sommes esclaves de ce monde et asservis à tout ce qui le constitue. Et devenir chrétien, c'est être dans l'Église à Goshen. Et quand nous entrons dans l'Église, les choses ne deviennent pas plus simples d'un coup. Nous devons même parfois aller chercher la paille pour faire les briques. Pour certains, devenir chrétien est une augmentation de difficultés à vivre au jour le jour, particulièrement dans certains pays. Dans Éphésiens 5, 25, nous lisons « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le couple est l'image de l'union de l'église à Jésus, voulue par Dieu. C'est pour cela, entre parenthèses, que l'image de l'union avec Dieu ne doit pas être défaite, car dans le plan de Dieu, elle est indéfectible, une seule chair. Est-ce que l'union avec l'Église est une option pour le chrétien ? Dans le cas seulement où il en aurait besoin ? Non. En nous couvrant de son sang, Jésus nous intègre par définition à son corps l'Église. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité aussi évidente que les membres d'un corps en font partie. Soit on est intégré pour un fonctionnement actif dans un corps, soit on ne fait pas partie de ce corps. Ce n'est pas parce qu'on est actif qu'on devient partie du corps. C'est parce qu'on fait partie du corps qu'on en devient partie prenante et actif. Vous comprenez la différence ? Si c'est une grâce que de faire partie du corps, ce n'est pas une option que d'y être intégré et utile. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe, de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Est-ce que l'Église ne pourrait pas être juste un empilement disparate d'individualités ? En fait, juste une vague idée d'appartenance universelle ? Non. L'Église est l'épouse du Christ dans toute la mesure et bien au-delà même de l'union de la Genèse, à l'exemple de ce que Paul dit aux Éphésiens. Ce n'est pas une option, c'est le dessein de Dieu pour l'éternité, mais qui commence depuis la venue de Christ. L'Israël de l'Ancien Testament en était la préparation. Pour que la communauté à l'image de Dieu, lui-même, communautaire, trinitaire, soit unie à lui à jamais. C'est le vrai sens de l'union, une seule chair, un seul corps, pas deux ou des individus juste amalgamés ensemble, mais une communauté à l'image de Dieu trinitaire, lui-même, un comme il est un. C'est la réalité du corps, pas seulement un symbole abstrait. Et le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, après celui d'aimer Dieu de toute son âme, en est l'illustration la plus flagrante et la réalité la plus importante de notre Goshen. C'est une réalité physique, donc locale, avant que d'être universelle, ou plutôt à l'intérieur de l'abstrait universel. Et oui, comme les chrétiens, malgré leur esprit régénéré, restent encore un peu sur cette terre d'Égypte, des hommes charnels. Du coup, Goshen, toujours en Égypte, est un lieu où il y a encore, et nous le sommes tous un peu, encore plus ou moins, d'une façon ou d'une autre. Des orgueilleux, des hypocrites, des menteurs, des médisants, des diffamateurs, des disputeurs, des discoureurs, des bagarreurs, des opinions différentes, voire opposées, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, des blessures, de la souffrance, de l'amertume, des larmes. Mais pourtant, Goshen, c'est le lieu voulu par Dieu pour préparer son épouse. Et Jésus, dont le Moïse de l'Égypte était le symbole du Goshen ancien, est le conducteur suprême de notre Goshen, l'Église, le nouveau temple, pour traverser notre Égypte, le monde, jusqu'à la véritable terre promise que seront la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et c'est le seul lieu, selon sa volonté, où nous pouvons être préparés et dans laquelle il accomplit encore des signes de puissance en nous protégeant et nous conduisant. Il est le feu, la nuée, le rocher où nous buvons, nous réfugions. Mais tout cela, c'est seulement à Goshen, dans le cadre de la communauté spirituelle, le corps, l'église, l'épouse, et quiconque n'est pas assimilé à l'épouse n'a pas l'époux. Goshen est encore un lieu d'esclavage et d'oppression pour ce qui est du lieu, mais pour ce qui est du plan de Dieu, c'est le lieu même où non seulement nous sommes à nouveau reliés à notre Dieu, dont le péché nous avait séparés, mais aussi d'une façon tout aussi importante, nous sommes à nouveau reliés les uns aux autres, car tout autant nous étions séparés par le péché. Il nous unit à nouveau dans ce corps qu'est l'Église, son épouse, selon son dessein éternel, dont il est lui-même l'exemple. Une communauté spirituelle en laquelle nous sommes un, et lui en nous, et nous en lui. C'est la définition même de l'union de l'époux avec l'épouse. Si nous sommes unis à lui, nous sommes unis aux autres. Pas d'alternative, aucune. Goshen, c'est donc le lieu où amour, pardon, réconciliation, unité de corps, malgré la divergence d'opinion, marchent ensemble malgré les conditions difficiles, voire insurmontables, comme la mer Rouge, les eaux de Marat, les Amalécites, etc., etc. C'est le lieu où le sang répandu sur le fronton de nos vies nous sauve du destructeur, dès maintenant en Égypte. Mais où également nous devons faire le tri des bagages de notre vie en Égypte pour n'emporter que ce dont nous avons besoin pour le voyage avec la communauté, conduite par le guide suprême. Lui aussi, comme les conducteurs d'Israël, Moïse et David, mais à l'inverse du berger devenu roi, et comme Moïse, type par excellence du grand berger. En venant vers nous, il quitte son statut de roi et devient le bon berger. Oui, Goshen, c'est l'Église, la nôtre, mais pas la nonchalance, pas le paradis, pas la perfection, pas encore. Pas le chant des sirènes du bonheur terrestre, pas un idéal d'équilibre personnel et éventuellement communautaire si affinité. Non, Goshen, c'est un lieu méprisé de l'Égypte, un lieu où nous passons de l'asservissement vil du monde au statut certes béni, mais esclave de Christ, selon Dieu. Le monde ne le comprend pas, car sa notion de valeur est totalement faussée par le péché. Dès sa venue à Goshen, le roi est devenu roi serviteur, venu transformer des forçats en fils de son royaume, où la notion d'autorité est inversée. Car le maître est venu servir l'esclave, où celui qui veut être grand devient petit, où le premier devient le dernier, pour pouvoir devenir premier dans le royaume. Goshen, c'est un lieu où les valeurs de ce monde déchu sont totalement inversées. Alors pourquoi Goshen n'est pas ce que nous attendions ou avions imaginé? Parce que nous rêvons Goshen avec les valeurs de l'Égypte, avec les richesses de l'Égypte, avec le savoir et la raison de l'Égypte. Parce qu'à l'instar de ceux qui n'étaient pas encore le peuple de Dieu, nous nous plaignons sans cesse de l'ordre établi par le roi, nous convoitons, nous regrettons les poissons, les concombres et les oignons de l'Égypte dès que l'adversité est là. L'hypothétique notion du bonheur et de l'apparente félicité de l'Égypte. Parce qu'à l'instar de ses esclaves, enrichis par la providence de Dieu, nous voulons utiliser les richesses que la grâce de Dieu nous accorde de l'Égypte où nous travaillons, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou temporelles. Nous voulons bien les utiliser pour la construction du tabernacle le dimanche et éventuellement quelques autres moments. Et c'est très bien. Mais aussi, sans aucun doute, pour fondre nos propres veaux d'or, qui deviennent maîtres de nos cœurs sans partage et nous ramènent inlassablement du travail nécessaire en Égypte à un asservissement de l'Égypte de laquelle pourtant Christ nous a rachetés. Galates 4, mais lorsque le moment est, 4, verset 4, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Goshen est en Égypte jusqu'à la fin des temps. Mais ce n'est pas l'Égypte. C'est le point de départ vers le nouveau royaume, inauguré par le sang d'une alliance éternelle, celui du Christ. Et si nous avons ceint le fronton de nos vies de ce sang, alors nous devons savoir que comme ils ont quitté leur maison au lendemain de la Pâque, une ceinture et chaussures à leurs pieds, prêts à voyager, nous devons quitter la maison de notre ancienne vie. Car le sang sur ce fronton marque notre appartenance à une nouvelle maison, qui est Jésus-Christ lui-même. Demeurer dans l'ancienne, c'est comme si nous avions mis le sang sur un faux cadre, que nous aurions mis pour cacher l'ancien pourri, ce qui serait sans valeur, sans repentir, en fait sans aucun intérêt pour la maison, qui du coup reste pourrie, sans espoir de tenir debout avec le temps. Depuis ce jour de la Pâque, les jours suivants, ils mangeaient sans levain, ils l'ôtaient même de la maison. Levain, symbole du péché et de l'ancienne vie dont on se repent, se débarrasse et qu'on nettoie régulièrement à chaque fois qu'on demande à Christ de laver nos pieds souillés par l'Égypte. Et nous devons savoir et nous rappeler chaque jour qu'en tant qu'ambassadeur de ce royaume, Goshen, tout en étant en Égypte, est un lieu qui appartient déjà à la terre promise. Nous sommes sous l'oppression de l'Égypte, mais nous n'y sommes plus asservis. Nous en sommes libérés, dissociés, et malgré le tribut à payer encore, qui n'est que rendre à César ce qui est à César, nous n'y avons plus aucune allégeance. Car comme Israël, suite à la première Pâque, devait racheter ses premiers-nés par un sacrifice chaque année et les consacrer à Dieu. Christ, l'agneau immolé, une fois pour toutes, nous a rachetés à l'Égypte pour Dieu, nous faisant ses héritiers, ses fils. Et pourtant, nous essayons sans cesse de faire cohabiter les deux bannières, car le Pharaon ne veut pas nous laisser partir. Et nous avons peur de nous mettre en route parce qu'il dresse nos mers rouges en barrière infranchissable, sans cesse devant notre incrédulité. Alors, nous voulons bien être ambassadeurs d'un magnifique royaume lointain. Mais comme des inconscients, nous ne cherchons que peu à le connaître. De toute façon, on l'a. Donc, on verra bien en temps voulu. Et en attendant, pourquoi ne pas profiter des richesses de ce pays finalement pas si terrible que ça? Certes, asservi, mais nourri, et on ne sent plus l'insupportable amertume qui va avec. Pour l'instant, un éphémère présent vaut mieux qu'une chrysalide promise. Mes frères et sœurs, comme dans la pénibilité de Goshen, Dieu veut nous multiplier et faire de nous une communauté, un temple, pas au paradis, pas encore, mais ici, dans la souffrance, la désillusion même de Goshen. Au cœur de l'Égypte, il veut par sa présence permanente nous débarrasser de l'amertume du levain, nous éclairer de la lumière, lui la lumière, nous abreuver, lui le rocher d'où jaillit l'eau vive, nous nourrir, lui notre manne, et nous faire vivre en communauté spirituelle, son épouse. Et pour ce faire, pas d'autre alternative que d'obéir à bien plus que Moïse, au maître berger, Jésus-Christ. Écoutons encore l'apôtre Pierre, chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Bien souvent, nous nous identifions à Christ quand un choix ou un souci se présente, pour agir comme lui et différemment du monde à ce moment-là. Alors que nous ne devrions plus jamais agir comme étant soumis à l'Égypte, mais toujours à lui, comme il nous a demandé, comme il nous le demande. Verset 3, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans des idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Est-ce que nous avons vraiment cessé d'accomplir la volonté des non-croyants? Est-ce que nous pensons devoir travailler à notre vie chrétienne seulement dans certaines circonstances particulières? Non. Comme Paul le dit, des athlètes, de la même façon qu'eux, c'est en permanence que nous devons veiller, prier, nous entraîner durement dans sa présence, au travers de sa parole, nous nourrir quotidiennement pour ne plus agir de la vaine façon de l'Égypte, mais selon l'identité nouvelle de fils de Dieu, racheté par l'agneau, comme faisant partie du peuple qu'il s'est acquis. C'est la seule façon de l'honorer, l'adorer, le glorifier, bien au-delà de nos pauvres moments mis à part. Chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ne pas se laisser distraire car le diable rôde comme un lion prêt à dévorer sa proie. Souvent utilisé isolément, ce passage est allié au texte et au contexte précédent. C'est un contexte de communauté. Nous sommes encore dans un contexte de souffrance. Nous subissons encore des plaies, mais nous sommes appelés à nous protéger les uns les autres. Comme ces bœufs que j'ai vus dans un reportage il n'y a pas longtemps. Des bœufs pas très grands, mais avec des cornes qui entourent les faibles pour les protéger des loups et qui foncent même sur eux, cornes en avant, pour délivrer ceux qui sont déjà sous les crocs, les mettant ensuite au centre du cercle, formé par leurs cornes, tête tournée vers l'agresseur, en étant vigilant pour empêcher d'attaquer. Ce qui sera impossible tant qu'ils demeureront dans cette position de protection mutuelle par l'union du groupe. Vital pour les chrétiens dans un monde d'opposition, au sein duquel le temple, l'Église est placée. Nos cornes, ce sont toutes les armes de la puissance de Christ. Jésus le dit à Pierre dans Matthieu 16, « Les portes de l'enfer, du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elles. » Même si on peut penser que certaines des plaies de l'Égypte les ont peut-être touchées. À Goshen, la lumière a brillé quand l'Égypte était dans les ténèbres. À Goshen, la mort n'a pas prévalu sur le peuple de Dieu, ni même sur son bétail. À Goshen, ils ont été préservés des mouches qui se développent sur la pourriture. 2 Pierre 1. Verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Nous ne devrions plus avoir à souffrir des conséquences de cette corruption sur nos propres vies, parce que nous pouvons la fuir en appliquant à nos vies ces vertus. Oui, par nos efforts, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais pour justement ne plus souffrir de la corruption de l'Égypte et devenir participant de la nature divine. Verset 10, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ne nous y trompons pas, c'est lui qui le fait. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais c'est sur la porte que le sang doit être mis. La porte où passe tout ce qui entre dans nos vies. Est-ce que le sang de Christ a bien été mis sur la porte de nos âmes, sur la porte de nos corps, sur la porte de nos esprits? Surtout, n'abandonnons pas découragés par nos chutes. Non. C'est en suivant Jésus sur le chemin de la terre promise, au travers du désert et des montagnes, qu'il veut nous entraîner et nous sanctifier. Mais pas une étape sur deux ou sur dix. Tous les jours, nous devons marcher avec lui. Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Pour conclure, la communauté spirituelle, ce n'est pas seulement le dimanche au culte qui est essentiel, mais dans une vraie communion de l'épouse, un engagement de tous, le don de nos biens et de notre temps, de nos vies. La dîme et les taxes religieuses qui représentaient environ 30% des biens des Israélites sont dépassées. C'était l'ancienne alliance. Non pas qu'elle soit annulée, mais dans la nouvelle alliance, le Christ a racheté nos vies pour Dieu. Son Père est devenu notre Père. Nous lui appartenons totalement, 100%. Vous pensez que je débloque? Alors relisez dans cette optique tout l'enseignement de Jésus dans les évangiles, puis les applications des apôtres, et votre vie sera bouleversée. Trop souvent, nous nous assemblons autour de l'image que nous nous faisons de Jésus homme, le petit Jésus, un Jésus à notre mesure, pas trop grand, qui ne nous bouscule pas trop. Pourtant, ce qu'il veut, c'est nous faire traverser nos mers rouges, purifier nos eaux amères, donner de l'eau et de la manne dans le désert, vaincre nos amalécites. Mais pour ça, comme Moïse, nous devons lever les bras vers lui, pas seulement les mains, vers lui seulement. Ne pas les laisser attacher à l'Égypte, pas même un seul doigt. Trop souvent, nous nous assemblons autour d'idées, de méthodes, de formes, cultes courts, longs, comme aujourd'hui, louanges, comme ci, comme ça, réunions, comme ci, comme ça. Nous sommes attachés à nos identités religieuses, réformés, réformés baptistes du Sud, du Nord, mennonites, protestants mennonites, évangéliques, évangéliques, protestants évangéliques, protestants évangéliques de Prêves-Saint, protestants évangéliques de Prêves-Saint, de droite, de gauche, du centre, et j'en passe. Où est le fond, comme fondement, la base, ou plutôt toutes les dimensions de l'amour du Christ? Où nous sommes ensemble, autour de lui, le berger, nous tenant mutuellement les bras levés et vainqueurs, où nous ne sommes que de petites bandes séparées et errantes, à tout vent de doctrine, les bras ballants, parce que nous sommes dirigés par nos idées du berger, pas par le berger. Chers frères et sœurs, c'est à notre communauté spirituelle, mais encore humaine, que Pierre s'adresse. C'est au sein d'une communauté imparfaite que Dieu veut justement développer en chacun et au travers des autres membres la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et surtout l'amour. Car si elles s'y développent, elles ne nous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur. Alors nous glorifierons le Père, car nous porterons du fruit en abondance. Nous serons pour Jésus-Christ des disciples. Et notre Goshen de Prêves-Saint deviendra le lieu où beaucoup d'Égyptiens rejoindront le peuple élu en devenant eux-mêmes participants. Le peuple grossira au cœur même du creuset de Goshen pour au final devenir un fin l'impur. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse parfaite de Christ, du Christ, c'est le dessein magnifique de Dieu, du Dieu trinitaire, être le Dieu éternel d'une communauté unie en lui, à lui et par lui. Jean 17, 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais pour cela, la communauté ne doit plus être affermie à l'Égypte, pas même légèrement teintée. Et ce, malgré le fait qu'elle marche encore sur son territoire, voué à la destruction. Alors, allons-nous être l'Israël de la mer Rouge? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert, ou de Massa et Meriba, épreuves et querelles, à la dérive, sans cesse incrédule et désobéissant à la parole de Dieu. Où allons-nous être ce peuple nouveau, engendré au moyen du sang rédempteur de l'agneau, marchant vers le dessein suprême de Dieu, une communauté spirituelle unie éternellement? L'Église, l'épouse du Christ. Jésus-Christ est l'agneau immolé à Pâques, Dès lors, il nous a libérés totalement de cet asservissement en nous rachetant comme des fils héritiers pour Dieu. Mettons nos ceintures à nos reins, nos chaussures à nos pieds, et il nous conduira hors d'Égypte. Évitons de nous plaindre sans cesse comme le peuple d'Israël, mais obéissons-lui. Identifions-nous toujours à lui, plus jamais à l'Égypte. Ne soyons plus jamais incrédules à la plus petite des paroles de Dieu, porte d'entrée de l'infidélité et de la rébellion. Dieu a-t-il vraiment dit ? Mais en toute chose, soumettons-nous à la Bible, la parole de Dieu. Jean 17, 17. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dernier verset. Exode 14, 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. On va se recueillir un instant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es la parole venue jusqu'à nous, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui as choisi d'être notre Dieu. Parce que c'est toi qui t'es révélé à nous. Nous voulons te rendre grâce parce que lorsque tu es reparti, Seigneur Jésus, toi la parole, tu nous as envoyé ton esprit pour qu'il nous parle de toi, Seigneur. Pour qu'il nous parle de toi par ta parole, Seigneur, parce qu'il prend ce qui est à toi pour nous le donner. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que nous avons d'avoir cette parole entre les mains. Et Seigneur, nous te supplions de nous donner faim et soif de ta parole, de nous donner faim et soif jour après jour de ta présence, Seigneur, de marcher avec toi, oui, encore sur cette terre d'Égypte, Seigneur, mais derrière toi, tu es notre rocher, tu veux nous nourrir, tu es notre manne, tu es notre eau vive. Seigneur, donne-nous de nous attacher à ta parole toujours et toujours plus, Seigneur. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs pour la recevoir. Donne-nous de te donner nos vies, Seigneur. Aide-nous à nous détacher des richesses de l'Égypte, Seigneur. Aide-nous à les utiliser pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons nous arrêter sur ce dernier verset. L'Éternel combattra pour vous. Et Seigneur, nous savons que c'est toi qui combats pour nous. Nous savons que comme Moïse, nous n'avons pas de capacité, mais que c'est toi qui les mets en nous, Seigneur. Et nous te prions que chacun d'entre nous ici ce matin, nous abandonnions nos forces et nos qualités pour te laisser mettre les tiennes en nous, Seigneur, et te servir par toi en nous, là où tu nous le demandes à chacun, Seigneur. Seigneur, donne-nous, dans notre communauté de Goshen ici à Prefsin, que ta lumière continue toujours d'éclairer alors que le monde est dans les ténèbres, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu veux parler à nos cœurs à chacun. Merci parce que tu connais nos difficultés à chacun. Tu connais nos luttes à chacun, Seigneur. Je te remets ce matin chacun des cœurs ici présents pour que tu fasses ton œuvre dans ces cœurs, Seigneur, et que tu leur parles par ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Béni la fin de cette journée. Béni cette semaine, Seigneur, où nous allons encore continuer de marcher dans cette Égypte qui nous entoure. Seigneur, mais que ce soit par ta force, avec toi et derrière toi. Par ton nom de Jésus. Amen. Je vais partager avec vous les annonces. Ce soir, à 20h, ici, il y a une comédie musicale du groupe de jeunes de Saint-Genis qui qui vient rejouer pour la deuxième fois cette comédie musicale. Suite à des discussions avec le groupe de jeunes, notre groupe de jeunes, ils ont trouvé bien de le refaire. Et donc, ce sera ici ce soir à 20h. C'est pour soutenir un projet de camp en Roumanie. Donc, ce soir à 20h ici, pour tous ceux qui ont vu la première fois, on dit que c'était génial et qu'il fallait la rejouer et la voir. Donc, venez ce soir à 20h. Mardi 28, 14h30, étude biblique des aînés. À 18h, il y a la pastorale. Pensons à C'est Philippe qui représente notre assemblée à la pastorale. C'est la clôture de l'année. Et à 20h30, ici, réunion de prière. Jeudi 30, c'est la clôture de la chorale. Alors, si je comprends bien, jeudi, la chorale prend l'eau. Ça se passera chez Pierre et Déborah, à 18h pour un temps piscine. Et 19h, j'ai 19h, chorale et repas canadien. Donc, je ne sais pas si c'est timé à ce point-là, mais... Samedi prochain, le groupe de jeunes part en week-end à la Lécherolles. Et nous les rejoignons donc le dimanche. Le dimanche 3, donc culte à la Lécherolles. Alors le culte est à 11h, le temps de s'y rendre. Et donc à partir de rendez-vous 10h, 10h30 sur le parking de la Vatay. S'il y en a qui ne savent pas où ça se passe, qui viennent nous voir, nous demander, hein, moi ou Emmanuel et Rebecca, qui sont nos hôtes là-bas à la Lécherolles, les parents de Rebecca. Et comme d'habitude, je pense qu'il y a une charrette, hein, pour ceux qui ont de la peine, il y en a pour 10 minutes à pied à rejoindre du parking au chalet, mais pour ceux qui ont des difficultés ou pour les bagages, il y a une charrette où des fois c'est le moderne avec le 4x4. Ah d'accord, ben, on l'essayera alors. Donc l'après-midi, pique-nique, hein, et donc passer un temps là-bas, dans ce magnifique lieu sur la montagne là-bas, au cœur des pâturages. Dimanche 10 juillet, on en a déjà parlé, Anne-Lise fêtera aussi son anniversaire, ses 80 ans pendant ce temps. Il y aura donc un apéritif après le culte. Et à cette occasion, il a invité des amis. Ça tombe bien, c'est un culte ouvert. Donc ce sera un petit peu particulier. Il y aura un petit témoignage. C'est aussi rendre un culte à Dieu que d'honorer nos personnes âgées, des personnes de foi et des personnes de prière. Rebecca, tu as une annonce à nous faire pour l'apéro du club, je crois.
Bonjour. Alors, le club va commencer dans 15 jours. Enfin, je crois qu'il a commencé depuis longtemps. Il est là, on le porte sur notre cœur. Et j'aimerais vraiment remercier chacun qui prie pour ce club. Et une petite équipe a préparé un carnet de prières. Donc, si ça vous intéresse, je vais les distribuer tout à l'heure pour prier avant et pendant ce club. Je vous lis le verset qui a été noté à la dernière page. « Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » 1 Jean 5, verset 14-15. Voilà. Et pour la question pratique, il y a le tableau au fond de la salle pour vous inscrire, pour apporter quelque chose le vendredi, donc le dernier jour du club, parce qu'il y aura un apéritif. Alors merci de vous inscrire, merci d'amener quelque chose. Et tout à l'heure, je m'excuse Raymond, je n'ai pas écouté par rapport à Lécherolles, est-ce que tu as bien dit que c'était un culte de partage ?
Non, j'ai dit que c'était un culte, mais le culte est un partage. Donc
oui, mais c'est les gens, partage. C'est les gens qui... Parce que j'ai rigolé avec le cheval et je ne t'ai pas écouté. Pardon.
Tu ne l'as pas entendu parce que je ne l'ai pas dit, c'est juste ça. C'est l'annonce pour le club. Oui, je t'en prie.
De la part de Joël, c'est aussi pour le club. Donc, pour le club, il y a des bricolages qui sont organisés. Alors, on aurait besoin de chaussettes propres, parce que c'est moi qui fais le bricolage, donc je préfère qu'elles soient propres. Donc, c'est l'occasion de faire vos tiroirs. Si vous avez des chaussettes orphelines qui ne sont pas percées, ça nous intéresse vivement. Pas percées, ouais. C'est pour ça que je mise plus sur des chaussettes orphelines. Voilà.
Merci. Donc oui, précision, comme le disait Rebecca, donc dimanche à la Lécherolles, culte de partage, ça veut dire que chacun d'entre nous amenons un témoignage pour ou un verset ou quelque chose qu'on a reçu la semaine pour partager là-haut. Est-ce que dans les activités, il y a quelque chose qui a été oublié ? Alors on veut toujours continuer de penser à Roland. Hein. Roland a toujours besoin de nos prières. Il est suivi par un cardiologue d'Annemasse qui fait des recherches pour trouver l'origine du problème cardiaque. Il doit rester au repos complet en attendant qu'une solution soit trouvée. Le problème est un fort gonflement du ventricule gauche du cœur. C'est donc quelque chose de sérieux et nous voulons remettre aussi Roland à notre Dieu. Nous voulons continuez de penser aussi à Didier, dont la santé n'est pas brillante ces derniers temps. Pensez à Loredane. On pense toujours à Rachel, où les infections continuent. Encore eu un mail dans le courant de la semaine où c'était pas terrible. Alors elle est chez sa maman la plupart du temps à Grenoble et ça leur permet d'être un peu soulagés. Mais on veut vraiment penser à Rachel et Jonathan dans cette épreuve qui dure. Et que le Seigneur vraiment intervienne dans sa vie, continue de les bénir et de les fortifier. Mais elle a toujours sa confiance en Dieu, et en tout cas, elle remercie chacun parce qu'elle sait qu'on est derrière. On pense aussi à Anne-Lise, où son pied, c'est pareil, c'est pas, elle devait avoir une petite intervention pour rouvrir la veine, parce, pour que le sang circule mieux. Mais bon, on aura le plaisir de la voir là le 10 juillet, on veut continuer de penser à elle. On veut continuer de dire merci aussi pour toutes les interventions. On veut dire merci aussi pour... on a parlé des missionnaires ce matin, et c'est vrai qu'on a Floriane ici, c'est vrai qu'on a Jean-Daniel et Pascaline qui sont venus nous voir pour un temps, c'est vrai qu'on a Mélanie qui est avec nous dans nos cœurs. Et moi, je vous encourage aussi, on en a parlé quand on a fait la réunion de membres, de ces soutiens qu'on a envers des missionnaires ou envers des œuvres, de ces dons que Dieu nous permet de faire pour sa gloire. Et je vous encourage à prier, non seulement pour les gens, pour les œuvres à qui on fait des dons, mais pour les pays dans lesquels ça se passe. Pour les pays dans lesquels ça se passe. Alors normalement, on devait mettre sur le site, je ne sais pas si ça a été fait déjà, il faut qu'on le fasse prochainement, mettre sur le site hein, tout ce qui est concerné par nos dons, parce que donner de l'argent, c'est bien, Dieu nous donne cette capacité à le faire et nous le faisons, mais ça, l'offrande, elle ne s'arrête pas là. L'offrande, elle va beaucoup plus loin que ça. Elle va sur notre soutien, dans la prière, dans la pensée qu'on a pour tous ces pays. Alors il y en a souvent qu'on a plus à cœur et qui viennent plus facilement, mais c'est bien, je pense, d'avoir cette liste parce qu'elle nous permet de prier pour toutes ces œuvres dans lesquelles le Seigneur, que le Seigneur a mis sur nos routes pour que nous les ayons dans nos cœurs et dans nos prières. Philippe m'a marqué que Pierre reprenait le boulot demain, donc c'est aussi un sujet de grâce, mais aussi de prière. Peut-être que ton épaule n'est pas encore totalement mobile, donc on veut penser aussi à Pierre. Et puis bien sûr, le club aussi, et Rebecca nous a donné des sujets là, mais vraiment, la prière, c'est vraiment un aspect très, 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 très important pour ce club. On veut remettre tout ça dans les mains du Seigneur. Et puis, cette semaine, je viens de parler des pays dans lesquels on est actif au niveau de nos offrandes, mais on prie pour les chrétiens persécutés de Tanzanie. Voilà, si personne a quelque chose à rajouter, je vous invite à vous lever. Je voulais lire deux versets ce matin pour terminer ces moments et pour partir en paix avec la bénédiction du Seigneur. Et ben, évidemment, ce matin, ces deux versets qui me tiennent particulièrement à cœur se sont imposés comme une évidence pour moi dans Hébreux 13 au verset 20. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine.